Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Muller et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, épisode 9. Aujourd'hui, on parle d'un sujet grave dont les conséquences sont pourtant trop souvent sous-estimées dans notre pays, l'épuisement parental, également appelé le burn-out parental. Dans cet épisode, vous allez voir que les ressorts du burn-out sont souvent les mêmes. Fatigue extrême, perte de patience, culpabilité, crise de larmes, sentiment de mal faire, tout le temps d'être un mauvais parent, confiance en soi en berne et sentiment que personne ne vous comprend et que personne ne vit la même chose que vous. Les conséquences peuvent être lourdes, on parle d'un sujet qui est tout sauf à prendre à la légère.
Je ne dors plus. Deux enfants, un boulot intense, une maison et un mari à gérer. Les journées sont plutôt chargées. Depuis, je vis le jour et la nuit.
Et quand on est au bout du rouleau, forcément, on craque et on perd un peu ses nerfs malgré soi.
Il m'est arrivé de crier la nuit quand il se réveillait deux, trois, quatre, cinq, au bout de cinq fois. On n'a plus envie, on n'a plus envie le matin de se lever et de s'occuper de lui. C'est triste à dire, mais ça m'est arrivé.
Dans ce podcast des maternelles, on va apprendre à reconnaître ce qu'est un burn-out parental. Ça vous aidera peut-être à réaliser que ce que vous traversez est tout sauf anodin. Ça vous aidera peut-être aussi à réaliser que l'un ou l'une de vos proches est dans cette situation et donc il ou elle a besoin d'aide. Car oui, on peut en sortir, on en sort de ce burn-out parental, même si on se sent au fond du trou. On va en parler avec une experte du sujet. C'est parti. Bonjour Valérie Duban.
Bonjour Benjamin.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet de l'épuisement du burn-out. Vous êtes coach professionnel, vous êtes spécialisé dans les troubles des apprentissages des enfants et des ados. Vous publiez un livre tout pile sur notre sujet qui s'appelle « Parents épuisés » qui vient de sortir aux éditions Erol. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre parler de parents épuisés, de burn-out, de parents qui sont crevés, qui n'en peuvent plus, ou globalement on est sur le même sujet ?
Alors on pourrait dire qu'on est un peu sur le même sujet puisqu'en fait le burn-out c'est un épuisement. Donc les parents qui sont épuisés, ce sont des parents qui peuvent être à la limite du burn-out.
Là comme ça, si vous deviez donner les 2-3 symptômes classiques du père ou de la mère en burn-out, ce sont lesquels ?
Alors déjà il faut comprendre que le burn-out c'est un épuisement. On n'a donc plus les ressources nécessaires pour faire face à des situations de stress. Les situations de stress, on les a tous en tant que parents. Mais plus elles vont être importantes, plus elles vont être, entre guillemets, récidivantes, moins on va être armé pour pouvoir les affronter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence entre le burn-out des mères et le burn-out des pères. Les femmes, elles vont continuer à vouloir être des mamans, à vouloir être toujours très, très présentes, alors que les pères, ils vont aller vers une fuite. C'est-à-dire qu'ils vont, au niveau professionnel, être constamment en déplacement, vont accepter des rendez-vous tardifs pour reculer leur heure d'arrivée à la maison.
Est-ce que le père, classiquement, qui fait ça, qui rentre à 21h tous les soirs parce qu'il n'en peut plus, il est au bout du rouleau, est-ce qu'il se rend compte qu'il rentre plus tard pour se préserver de sa famille ou est-ce qu'il le fait sans le réaliser ?
Alors, il le fait sans le réaliser, bien sûr. Et les pères sont rarement diagnostiqués en burn-out parental. La première chose qu'on diagnostique chez les hommes, c'est un burn-out professionnel. Or, il serait peut-être intéressant de se poser la question si ce n'est pas le côté parental qui va enclencher derrière un burn-out professionnel.
Est-ce que tout le monde peut, selon vous, faire un burn-out parental ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus disposés à en faire un ?
Alors, la question est très intéressante parce que moi, je dirais que oui. C'est-à-dire qu'entre guillemets, des parents qui sont un peu plus cool vont se préserver automatiquement du burn-out parental. Et les parents aussi qui ont appris à prendre soin d'eux, c'est-à-dire qui vont aller vers de la bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes.
Ça, c'est hyper important ce que vous venez de dire. En gros, un parent qui va faire un burn-out, c'est un parent qui se met énormément de pression, c'est ça ?
Oui, cette pression, en fait, tous les parents la ressentent. Mais aujourd'hui, la société fait que cette pression est de plus en plus importante. Vous devez réussir professionnellement, vous devez réussir votre vie amoureuse, vous devez réussir votre vie avec vos enfants. Et au milieu de tout ça, il y a des exigences qui sont encore présentes. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, aujourd'hui on vous dit que vos enfants, il faut qu'ils mangent 5 fruits et légumes par jour. Il faut qu'ils fassent une activité sportive. Il faut qu'ils soient dans la bonne école. Il faut qu'ils fassent des études. Et vous, en tant que parent, vous devez assumer tout ça. Il y a une sorte d'obligation, plus le fait qu'on sait de plus en plus de choses grâce aux neurosciences, vous ne pouvez pas, en tant que parent, vous dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas. Donc, vous vous regardez faire et ça vous renvoie une image qui est excessivement négative.
Vous écrivez dans le livre qu'en fait, il faut faire le deuil du parent idéal que l'on espérait être. Avant d'avoir des enfants, on s'imagine être un père. Je sais plus les exemples que vous donnez, c'est qu'il va au parc avec son enfant, qu'il fait du vélo, on rentre, on fait une petite tarte aux pommes, tout se passe bien, etc. Puis dans les faits, ça se passe jamais aussi bien que voulu. Et c'est là aussi où on peut se dire, mais en fait, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère. Et c'est les prémices de ce qui va être un burn-out.
En fait, quand l'enfant arrive, il y a toujours un deuil à faire. Ça, on le sait de façon très classique. On a toujours imaginé faire des choses avec son enfant, que son enfant serait comme ça. Mais le parent parfait, il n'existe pas non plus quand l'enfant grandit. Je vais prendre un exemple, Benjamin. On demande à nos enfants d'accepter de faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Mais nous, parents, on va se reprocher de faire des erreurs avec eux alors qu'on est constamment en train d'apprendre notre rôle parental. Donc, il y a cette ambivalence à vouloir être le mieux possible pour que ces enfants arrivent à être des adultes bien dans leur basket, pour qu'ils tendent vers un bonheur, et ce côté où la société impose des choses qui fait que ces parents se retrouvent complètement submergés par leurs émotions. Ils ont des ressentis excessivement négatifs et du coup, ils ont l'impression d'être de mauvais parents.
J'ai récolté plusieurs témoignages sur le sujet où on se rend compte que parler d'épuisement, c'est quelque chose de lourd, de costaud, avec des témoignages, vous allez l'entendre, de personnes qui vont vraiment pas bien. Premier témoignage de Marie, Marie qui a une fille, on l'écoute et puis on en parle juste après.
Bonjour Marie, maman est épuisée de 32 ans, je vis à Paris, je suis la maman d'une petite fille de 19 mois. Moi, ma fatigue, elle a commencé après les 3 mois de ma fille. En fait... non pas qu'avant c'était pas fatigant, mais c'était plutôt ancré dans mon schéma qu'un bébé, les premières semaines c'était compliqué. Et puis petit à petit on s'est rendu compte que c'était un bébé qui ne faisait aucune sieste, ou des siestes chronométrées de 30 minutes après de longs bercements. Les nuits étaient catastrophiques, avec des réveils quasiment toutes les 2 heures maximum. Donc il y a eu un premier coup de fatigue à ce moment-là, mais c'est pas le seul en fait. Il y a eu plusieurs seuils et plusieurs étapes à cette fatigue et à cet épuisement. Mais en tout cas, ça, c'était le premier. Le second, ça a été quand son pédiatre nous a pas apporté son aide et nous a simplement signifié qu'elle avait besoin d'apprendre à dormir, ou que les problèmes venaient sans doute de l'allaitement, puisque je l'allaitais à l'époque. S'en est suivi une période de doute, parce que du coup, on a cru, mon mari et moi, les médecins, et on s'est beaucoup remis en question, nous. Et puis, à ces 6 mois, ça a été vraiment très, très dur à gérer, et très nerveusement, et l'équilibre familial était vraiment remis en question. Donc, on a changé de pédiatre. Et là, on est traversé une phase où, du coup... cet épuisement nous poussait à chercher une solution et à consulter beaucoup de professionnels, docteurs ou paramédicaux, sur le sommeil de notre fille et sur son hyperactivité la journée. Ça a duré à peu près jusqu'à ses 1 an, donc deuxième phase de l'épuisement. Et pour qu'ensuite on tombe sur des médecins qui nous écoutent, qui reconnaissent notre fatigue et l'état de notre fille, et qui l'accompagnent sur le plan, à ce moment-là, gastro-intestinal. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises de côté pendant cette première année et qui participaient à l'état de notre fille et donc à l'épuisement général de la famille. Depuis, ce côté-là est géré, mais le sommeil de notre fille est toujours catastrophique. J'ai repris le boulot en parallèle, donc ça alimente énormément le surmenage et tous les symptômes de la fatigue. Donc ça peut être moi-même qui me mets à pleurer, ça peut être des phases de vide où j'ai du mal à me concentrer, du mal à travailler, du mal à être avec le monde extérieur. Je me fais suivre, du coup, ça a été une décision depuis 6 mois, par un thérapeute moi-même, pour essayer d'apprendre à décharger cette fatigue et à recharger avec le peu de sommeil et le peu de temps que j'ai. Mais donc voilà, c'est une fatigue qui vient surtout du manque de sommeil, du manque de compréhension, de l'épuisement et de la routine, et aussi du manque de compréhension des gens, du manque de soutien autour, qui se gère comme on peut. Mais on a l'impression d'être dans une machine à laver et de ne pas savoir trop comment s'en sortir. Aujourd'hui, l'équilibre est là, mais il est très précaire. Et c'est un sujet, du coup, la fatigue et le burn-out, qui m'interpelle et que je questionne tous les jours. Donc j'écoute pas mal de podcasts, j'essaye d'avoir des témoignages de personnes qui ont traversé la même chose, mais je suis vraiment sur un fil et je me sens pas encore en sécurité, avec la peur que ça explose à un moment ou à un autre. Donc effectivement, c'est un sujet important sur lequel il faut témoigner, un sujet qui me parle énormément, et donc c'est pour ça que je me suis encouragée à enregistrer ce message et à témoigner. Merci beaucoup pour votre écoute et merci encore pour cette émission, cette belle émission des maternelles.
témoignage costaud, je le disais, de Marie qui va pas bien. Là, on est exactement à la définition de ce qu'est un burn-out parental.
Oui, en fait, Marie, elle a atteint cette phase d'épuisement parental chronique. C'est-à-dire qu'au départ, elle a essayé de gérer la situation qui est une situation stressante. Un enfant qui dort pas, ça veut dire manque de sommeil. Et puis, ça renvoie forcément à je m'en sors pas bien, je fais peut-être pas bien quelque chose. Petit à petit, ne trouvant pas de solution, elle est passée dans ce qu'on appelle une phase de résistance. C'est-à-dire que elle a essayé de continuer malgré tout. Et plus on continue, plus on sent une forme de mal-être. Et malheureusement, plus ce stress devient chronique. Et le stress chronique, on sait qu'il a un impact sur notre système immunitaire, mais il a un impact aussi sur notre sommeil. Et quand le sommeil n'est plus bon, bah, c'est un peu la machine qui s'enraye automatiquement.
C'est un cercle vicieux, ça devient la catastrophe. Elle dit quelque chose qui vous a fait tiquer, c'est l'équilibre familial qui est menacé. Évidemment, quand on ne dort plus, qu'on est crevé, qu'on est au bout du rouleau, la vie de couple, c'est compliqué. Comment faire? Quelles sont les clés, les conseils qu'on peut lui donner à elle et à celles qui vivent à peu près la même chose pour préserver leur couple dans ces moments très durs?
L'un des points, c'est surtout de prendre du temps déjà pour soi. On ne peut pas être bienveillant avec les gens si on n'est pas déjà bienveillant avec soi-même. Marie, en fait, il faut qu'elle commence par prendre du temps pour elle. Mais quand j'ai du temps pour elle, c'est rien que pour elle. C'est pas du temps à faire des courses ou du temps pour prendre sa douche, comme j'entends par exemple certains femmes disent « Ah mais si, Valérie, je prends du temps pour moi, je prends ma douche chaque matin et je me maquille ». Mais non, du vrai temps avec du temps de plaisir, quelque chose qui va réinjecter aussi des endorphines qui permettront de pallier ce stress.
Donc un rendez-vous avec les copines, faire du sport, aller au cinéma, prendre du temps pour lire, enfin n'importe quoi, mais s'obliger à prendre ce temps pour soi.
Oui, et ce que j'entends aussi, c'est que les parents vont dire qu'ils n'ont jamais le temps pour eux. Paradoxalement, ils vont le trouver pour leur enfant. C'est-à-dire que si votre enfant a un rendez-vous en urgence quelque part, vous allez vous dégager du temps. Et là, ces parents, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'urgence et que c'est urgent qu'ils trouvent du temps pour eux.
Je vais vous proposer d'écouter un deuxième témoignage. Cette fois, le témoignage de Mathilde. Mathilde qui est la maman de deux petits garçons. Écoutez.
Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans et je suis maman de deux petits garçons. Comme bientôt 3 ans. Et Roméo, un an. Le burn-out parental, je suis en plein dedans. Il y a un mois, à l'occasion d'une visite chez le pédiatre pour Roméo, celui-ci m'a demandé comment ça allait. Et là, je me suis effondrée. Non, en fait, ça ne va pas. Roméo ne dort plus depuis ses 2 mois et demi, suite à une hospitalisation. Je ne dors plus. 2 enfants, un boulot intense, une maison et un mari à gérer. Les journées sont plutôt chargées. Depuis, je lutte, le jour et la nuit. Mon mari est présent, mais il m'a laissé gérer les nuits avec Roméo, par confort certainement. J'ai accumulé bien trop de nervosité, de colère même. Le manque de sommeil est une véritable torture. Je suis quelqu'un de perfectionniste, mais avec un gros manque de confiance en soi. Alors je donne tout pour mes enfants, au risque de m'oublier parfois, pour qu'on me reconnaisse comme une bonne mère. J'ai plusieurs fois perdu mon calme dans les paroles prononcées à mes enfants. Je me suis surprise parfois. Et puis, le soufflet retombe et on culpabilise. Eux ne demandent que de l'amour et de l'attention, et moi, je suis plus capable à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis en arrêt maladie depuis 1 mois pour dépression réactionnelle. Le pédiatre m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de temps pour moi, que mes enfants avaient besoin d'une maman heureuse. J'ai rencontré un hypnothérapeute génial qui, lui, m'a fait comprendre que je n'aurais pas pu faire mieux dans telle ou telle situation. Ça fait du bien de se l'entendre dire. Il y a peu de gens autour de moi auxquels je me suis confiée. Chacun y va de son conseil, mais personne ne comprend réellement ce que je vis, pas même mon mari parfois. Depuis que je suis arrêtée, il y a des jours où ça va, où j'arrive à m'occuper que de moi, et d'autres où je culpabilise d'être sans mes enfants. J'aime mes enfants de tout mon cœur, je ne regrette rien et je ferai toujours tout pour eux. Mais aujourd'hui, je suis plus sûre de rien, j'avance au jour le jour. Témoigner aujourd'hui, c'est sortir de ma solitude parce que je sais que je suis pas la seule maman dans ce cas. Il faut que les gens entendent et qu'on aide ses parents sans les faire culpabiliser.
Alors, Valérie Dubon, ce témoignage de Mathilde, il vient un peu après ce qu'on disait juste avant. Déjà sur le fait que vous vous disiez c'est important de prendre du temps pour soi. Mathilde, elle dit « Ouais, moi je culpabilise quand je prends du temps pour moi ».
Cette culpabilité, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. L'enfant qui arrive, le parent et surtout les mamans, elles doivent, entre guillemets, s'en occuper. Mais là, ce qu'elle oublie, c'est que normalement, on s'en occupe à deux. C'est-à-dire que là, il y a un papa qui la met en surcharge mentale constamment. Et une famille, c'est une communauté avec un partage de tâches. on pourrait dire qu'il y a des hommes qui sont entre guillemets modernes, c'est-à-dire qui vont participer à ces tâches, alors qu'en fait c'est pas une question de participer aux tâches, c'est une question de faire tourner la maison à deux et pas tout seul avec merci mon chéri, ce soir tu as préparé le repas. Bah non, en fait, c'est pas merci mon chéri, tu as préparé le repas, mais il est normal qu'à un certain moment ce partage de tâches se réalise avec deux parents.
Oui, le père n'est jamais l'assistant de la mère, mais on fait à deux. Elle dit, mon mari est présent, donc on est sans doute là-dedans, mais il me laisse gérer les nuits. Si ce papa écoute ce podcast, qu'est-ce qu'on lui dit pour qu'il comprenne qu'il faut absolument réagir?
Alors en fait, moi je retournerai à la question, c'est qu'est-ce qui fait que lui ne fait pas les nuits? Parce qu'il y a de fortes chances que du coup, il nous réponde qu'il est fatigué, il ne sera pas performant à son travail. Mais là, on a une maman qui, du coup, elle n'est pas performante à son travail puisqu'elle est même en arrêt maladie aujourd'hui. C'est de faire la part des choses. C'est ce qui impacte l'un, impacte l'autre. Et peut-être que de faire une nuit chacun ou une nuit sur deux chacun, qui est une véritable répartition, pourrait déjà aider cette maman à se sentir mieux. Et surtout, après, à se sentir écoutée. Plus elle va se sentir écoutée, plus ses émotions vont être prises en compte, plus elle va retrouver aussi l'estime d'elle-même. Et c'est lié avec le burn-out parental. C'est-à-dire que cette maman, elle a l'impression aujourd'hui de plus être une bonne maman, alors qu'elle fait beaucoup de choses.
Et quand elle perd son calme, ce qui arrive à tous les parents, de perdre leur calme, de crier, puis après de culpabiliser, de regretter, etc. Et bien là, elle s'en veut à fond. Forcément, en étant fatiguée, on perd beaucoup plus son calme.
Bah, obligatoirement. Puisque de toute façon, l'état nerveux fait qu'on ne supporte plus même la moindre remarque. Des choses qui pourraient paraître bénignes deviennent des grosses montagnes. En fait, les choses sont disproportionnées puisque tout nous irrite. Quand elle s'énerve après ses enfants, j'allais dire que c'est la suite logique. Et il y a une autre chose dont elle nous parle, c'est de la solitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les parents en burn-out. Et même s'ils sont « entourés », entre guillemets, on entend beaucoup, beaucoup parler de solitude. Ils ont cette impression qu'ils sont tout seuls. Souvent, je leur dis, essayez de trouver, alors j'appelle ça un fan club, c'est-à-dire des gens qui véritablement vont être bienveillants avec eux. Et quand je dis véritablement, c'est pas la copine qui va vous donner tous les bons conseils du monde et qui va pas savoir vous écouter. C'est vraiment trouver des gens qui vont être là pour vous, qui vont croire en vous, qui vont continuer à vous donner de la confiance en vous, qui vont vous porter et vous tendre la main. Ça, c'est important. Et si on regarde dans son entourage, on a toujours, malheureusement, des personnes qui ne sont pas forcément de si bons conseils parce qu'ils ne sont pas dans l'écoute de notre propre besoin.
Les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas la fausse bonne idée si on cherche à sortir de cette solitude? Typiquement, on va sur Instagram, on s'abonne à des comptes de mamans qui racontent leur quotidien, sauf que ces mamans, elles postent ce qu'elles veulent, et donc elles peuvent se donner l'impression d'être parfaites, de jamais galérer, de jamais être fatiguées. Ça renvoie à soi-même sa réalité. Les réseaux sociaux, bonne ou mauvaise idée?
Instagram n'est pas forcément la bonne idée, dans le sens où il n'y a personne qui va venir modérer les propos. Donc on peut se retrouver finalement avec des propos qui sont vécus comme très violents. Ce qui peut être une bonne idée, c'est plutôt d'aller vers des groupes où il va avoir quelqu'un qui va diriger le groupe pour qu'il y ait un temps de parole pour chacun. Vous lisez des témoignages, vous dites « Ah oui, c'est comme moi, mais personne n'apporte de vraies solutions. » Et quand quelqu'un va vous donner une solution, ça va être sa propre solution et c'est pas du tout sûr qu'elle marche pour vous. C'est un peu comme quand on a l'impression que l'herbe est beaucoup plus verte chez le voisin, que leurs enfants, bah, ça marche toujours bien à l'école, puis ils crient pas, alors qu'on se rend compte que c'est pareil chez tout le monde.
Ces groupes-là, on les trouve où? C'est plutôt Facebook, du coup, si on veut être très concret sur les réseaux sociaux? Plutôt Facebook, on va dire, qu'Instagram. C'est mal, Instagram. Allez, nouveau témoignage. Cette fois, c'est le témoignage de Jody.
Bonjour la maison des maternelles. Voilà, je m'appelle Jody, j'ai 32 ans. J'ai une petite puce qui va bientôt avoir un an. Mon burn-out parental a été diagnostiqué tout début octobre, mais il prend malheureusement racine depuis plus longtemps que ça. Je suis actuellement une thérapie de groupe qui est dirigée par une psychologue qui a travaillé avec d'autres psychologues de Louvain, en sachant qu'eux sont vraiment de renommée mondiale par rapport à ce sujet précisément. Donc c'est une thérapie qui m'aide énormément, qui permet de vraiment de beaucoup déculpabiliser. On réapprend à prendre du temps pour soi, on sait aussi mettre le doigt sur vraiment ce qui ne va pas. Ça m'aide vraiment énormément et grâce à cette thérapie, en fait, j'ai pu découvrir que mon burn-out date en fait de choses, enfin trouve ses racines dans des choses qui sont vraiment très profondes, En fait, je manque de repères parentaux qui me conviennent. Et donc, du coup, par peur de reproduire les erreurs de mes parents, en fait, j'en fais peut-être un peu trop pour ma fille. Quitte moi à brûler un peu la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Donc, du coup, voilà, il y a encore du trajet à faire, mais voilà, c'est en cours, ça avance. Et voilà, un grand, grand merci à votre émission qui est vraiment pour moi d'utilité publique. Je vous fais des gros bisous.
Merci à Jody pour ce témoignage. Valérie Dubon, là aussi, c'est intéressant. Elle parle de thérapie, mais elle parle aussi du manque de repères parentaux. Visiblement, avec ses parents, il n'y avait pas les repères nécessaires pour l'aider à trouver son chemin de maman, on peut peut-être le dire comme ça. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'à l'époque où des parents de Jody, sans doute l'époque de mes parents aussi, etc., on se posait un petit peu moins de questions. Qu'aujourd'hui, les parents se prenaient un peu moins la tête sur les questions d'éducation, se mettaient donc un peu moins la pression. On peut imaginer qu'il y avait aussi du coup un peu moins de burn-out à l'époque. Est-ce que je dis n'importe quoi ou est-ce qu'on est dans le vrai ?
Alors, c'est fort probable, dans le sens où ces nouveaux parents, ils ont à inventer ce rôle de parent. Pourquoi ? Parce qu'avant, la place de l'enfant n'était pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que ça fait peu de temps que l'enfant a une place à part entière dans notre société. Et que du coup, automatiquement, ça repositionne ce rôle de parent. Donc Judy, en fait, ce qu'elle ressent quand elle nous dit qu'elle n'a pas de repères parentaux, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que comme on a à réinventer un rôle de parent, forcément les repères ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui était bien avant ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et ça, on commence à le comprendre aussi. Il y a véritablement à aller vers ce nouveau rôle.
Pour aller vers ce nouveau rôle, c'est pas simple. Il faut donc évidemment être aidé, vous l'avez dit. L'entourage n'est pas forcément toujours le mieux placé pour nous aider pour tout un tas de raisons, on en a parlé. Vers quel professionnel on peut se tourner ? Quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui, qui réaliserait qu'elle est en plein dedans ou il est en plein dedans dans le burn-out, vers qui il peut se tourner pour aller en parler ?
L'entourage peut être très étayant. C'est-à-dire qu'avoir un entourage bienveillant autour de soi, ça peut aider. Mais ça suffit pas, généralement. Il y a des professionnels, que ce soit des psychologues, même des coachs, peuvent aider. L'essentiel, c'est surtout de se dire comment on va faire. Comment on va faire pour s'en sortir et que vous puissiez trouver des solutions auprès de ces gens-là.
Et surtout, n'hésitez pas à en parler, c'est aussi ce qui ressort beaucoup. La deuxième chose que je retiens de notre entretien, c'est mettez-vous moins la pression, soyez bienveillant avec vous. Dites-vous que vous faites comme vous pouvez. Et la troisième chose, c'est que si monsieur ne se lève jamais la nuit, n'hésitez pas à lui dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne se lève pas la nuit. On est d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait, Benjamin.
De temps en temps, vous voyez l'inverse où il n'y a que les hommes qui se lèvent ? Rassurez-nous quand même, ça arrive. Hein.
Contrairement à ce qu'on pense, je vois des hommes aussi qui sont de vrais, vrais papa poules. Et eux vont se retrouver en burn-out du même style que les mamans, avec en plus ce jugement que portent beaucoup d'hommes sur eux.
On va remettre en cause leur virilité, c'est pas des vrais pères, en plus, etc., etc. Bref, il y a encore beaucoup de boulot. Mais ce livre va en aider beaucoup, j'en suis sûr. Il s'appelle « Parents épuisés », signé de vous, Valérie Duban, publié aux éditions Erol. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.
Merci, Benjamin.
Voilà, c'était le podcast des maternelles, épisode 9. J'espère qu'il aidera certains et certaines d'entre vous. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous conseille également le replay d'une émission de la Maison des maternelles sur France 5 qu'on avait réalisée sur le sujet. Ça s'appelait, pour le trouver, Burnout 2. Quand les mamans craquent, émission animée bien sûr par Agathe Le Caron, avec là encore d'autres conseils qui pourront, j'en suis sûr, vous aider. Je vous renvoie aussi au livre du docteur Moira Mikolajczak sur le sujet « Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir », livre paru chez Odile Jacob, avec là aussi des conseils, cette fois d'une docteure en psychologie, ce qui peut évidemment aider beaucoup de monde. Et puis j'aime bien dire, même si ça paraît un peu léger de dire ça, qu'après la pluie vient toujours le beau temps, faudrait surtout pas l'oublier. Le podcast des maternelles est réalisé par Alexandre Ferreira pour France Télévisions et de P2L sous la houlette d'Olivier Maqueron, d'Aurélie Taguet et de Jérôme Caza. Merci à Vanina Martinez pour son aide et à toutes celles qui ont accepté de témoigner. La semaine prochaine, on parlera d'un autre sujet qui peut laisser des traces, la césarienne.
Je me sentais frustrée, coupable, hein, et je me suis même surprise à me demander en combien de temps on pouvait de nouveau accoucher après une césarienne, comme si j'avais pas réellement vécu en fait mon accouchement et que je voulais vite recommencer pour pouvoir contrôler le prochain.
Podcast sur la césarienne et sur les conséquences psychologique de celle-ci sur la maman. Ce sera donc lundi prochain. Salut tout le monde, rendez-vous d'ici là sur Instagram si vous voulez me suggérer un thème ou un autre de podcast. À bientôt, j'espère.